Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les réformes de 2022, celles qui touchent les expertises médicales de l'AI, l'assurance invalidité suisse. On s'appuie sur un rapport d'évaluation tout récent, mai 2025, de l'Office fédéral des assurances sociales, l'OFAS. L'objectif ? Voir un peu comment ces nouveautés ont été mises en place, comment c'est perçu par les acteurs sur le terrain, Office AI, experts, conseillers juridiques, et quels défis persistent. C'est un sujet, je pense, particulièrement pertinent pour nos auditeurs juristes, médecins experts ou spécialistes en assurance sociale. Alors pour commencer, un petit rappel rapide de ces nouveautés de 2022. Il y avait le renforcement des qualifications des experts, c'est ça?
Oui, exactement. Et puis les listes publiques d'experts mandatées.
L'enregistrement audio des entretiens aussi, sous si l'assuré s'y oppose.
Tout à fait. Il y a eu aussi l'attribution aléatoire étendue aux expertises bidisciplinaires, celles avec deux spécialités médicales.
Comme pour les pluridisciplinaires, ça c'était déjà en place.
C'est ça. Et puis, la limitation des possibilités d'objection contre le choix de l'expert. Et enfin, la création de la COQEM, la Commission fédérale pour l'assurance qualité.
D'accord. Alors, 3 ans après, comment tout ça est perçu sur le terrain? Est-ce que ça fonctionne?
Le rapport de l'OFAS dit que, globalement, techniquement, oui, ça a été mis en œuvre, les outils sont là, ils sont utilisés. Par contre, l'appréciation, elle varie beaucoup.
Oui.
Oui. Les offices AI, par exemple, ils parlent surtout d'une charge administrative en plus. Et ils se demandent un peu quel est le bénéfice réel.
D'accord, plus de travail pour un gain limité, selon eux.
Voilà. Du côté des conseillers juridiques, c'est plus mitigé. Certains apprécient la transparence accrue, notamment grâce aux enregistrements. Ils trouvent que ça améliore l'interaction expert-assuré.
Moins de problèmes signalés, peut-être.
C'est l'idée. Mais d'autres critiquent fortement la limitation des objections sur le choix de l'expert.
Et les experts eux-mêmes.
Pour eux, l'enregistrement, c'est parfois vu comme une protection. En cas de litige, ça peut servir.
Le rapport mentionne aussi un problème qui n'est pas vraiment nouveau, la pénurie d'experts. Est-ce que ces réformes ont eu un effet là-dessus?
C'est un point assez central et compliqué. La pénurie, elle existait déjà bien avant 2022 et ça reste le problème numéro un. Le rapport suggère que les nouvelles règles, qualification, enregistrement, liste publique, ont peut-être découragé quelques experts, donc ça aurait pu accentuer un peu le problème à court terme.
D'accord, un effet potentiellement négatif, même si léger.
Oui.
Mais ce qui est surtout frappant, c'est l'énorme différence selon les régions. En Suisse latine, et surtout en Suisse italienne,
oui,
où il n'y a qu'un seul centre pour les expertises pluridisciplinaires, l'offre est tellement limitée que le principe même de l'attribution aléatoire devient difficile à appliquer, quoi.
Ah oui, ça compromet carrément un des objectifs de la réforme dans ces régions. Parlons des délais et des coûts, des aspects évidemment cruciaux. Quel impact? Alors, sur la durée totale de la procédure d'expertise, le rapport dit qu'il n'y a pas eu d'impact majeur, d'après les acteurs interrogés. Par contre, les délais d'attente pour obtenir l'expertise, eux, restent longs. Et ça, c'est très difficile à vivre pour les assurés, évidemment.
Toujours ce problème des délais et les coûts?
Ah, les coûts, par contre, oui, ils ont augmenté. Clairement, le coût médian par expertise a grimpé, surtout pour les expertises bidisciplinaires. On voit une hausse assez nette entre 2022 et 2023.
Et les pluridisciplinaires aussi?
Oui, les coûts médians ont aussi augmenté pour celles-là.
Et comment les outils spécifiques sont utilisés? Les listes publiques, les enregistrements?
Alors, les listes publiques, les offices AI s'en servent surtout pour leurs propres besoins, en interne. Les conseillers juridiques, parfois, pour avoir une vue d'ensemble. Ou alors, ils les utilisent pour proposer un expert alternatif dans le cadre de la tentative de conciliation. Ça, c'est pour les expertises monodisciplinaires.
Et ça marche, cette conciliation?
Très bien, apparemment. Plus de 99% de réussite. Ça évite une décision formelle sur le choix de l'expert.
Pas mal. Et les enregistrements audio?
C'est devenu la règle. Moins de 6% des assurés y ont renoncé en 2023. Et ce qui est intéressant, presque la moitié des conseillers juridiques, 44%, pensent que ça a eu un effet positif sur le déroulement de l'entretien.
Moins de comportements jugés inappropriés, donc.
C'est ce qui ressort, oui.
Et 2 autres points. La limitation des objections sur le choix de l'expert et le rôle de la nouvelle commission, la COQM.
Alors, la limitation des objections, ça reste un point sensible. Environ un tiers des conseillers juridiques la contestent. Et il y a des interprétations différentes entre les tribunaux cantonaux sur jusqu'où on peut recourir. Le tribunal fédéral n'a pas encore eu à se prononcer là-dessus.
D'accord. Situation encore floue juridiquement.
Voilà. Quant à la COQEM, bon, elle est encore assez peu connue du grand public et même des professionnels, mais les attentes sont là. On espère qu'elle jouera un rôle important pour un contrôle qualité plus objectif, plus transparent.
Donc, si on résume, l'impact global sur les gros problèmes, pénurie d'élèves semble assez limitée pour l'instant, mais vous avez mentionné quelque chose de très intéressant dans le rapport concernant les offices AI eux-mêmes.
Oui, tout à fait. Ce qui est vraiment frappant, ce sont les énormes différences entre les offices AI dans leur tendance à demander une expertise.
C'est-à-dire ?
Sur la période 2022-2023, pour les demandes de prestations, le taux de dossiers qui finissent en expertise variait de 7% dans un office à 43% dans un autre.
43%, c'est énorme comme écart.
C'est considérable, oui. Et ça suggère qu'il y a une marge de manœuvre importante dans la façon de gérer la demande d'expertise. Certains offices semblent mieux utiliser les infos qu'ils ont déjà, peut-être déléguer certaines questions, ou s'appuyer davantage sur leurs propres médecins conseils, les SMR.
Cette différence est vraiment révélatrice. Ça montre que, oui, il faut peut-être plus d'experts, mais que la façon dont on demande ces expertises est tout aussi cruciale. Un aspect peut-être sous-estimé jusqu'ici.
Exactement. L'évaluation met vraiment le doigt là-dessus. Au-delà des réformes sur l'expertise elle-même, comment est-ce qu'on optimise le recours à cet outil ? Parce qu'il est coûteux et parfois long.
Ça nous laisse donc avec une question importante pour la suite, non, Eve ? Comment les offices AI pourraient affiner leurs pratiques ? Pour mieux cibler le besoin réel d'expertise, peut-être réduire les délais, les coûts, tout en garantissant bien sûr la qualité et l'équité. Quelles stratégies concrètes on pourrait imaginer pour gérer plus efficacement cette demande, au sein même du système ? Voilà une piste de réflexion, je crois, pour tous les professionnels qui nous écoutent.